Radio Grenouille.
هذه الحوار خلال لقاء انعقد أول أمس السبت في رام الله.
Poétique, politique, poétronique, vous avez du pot. La 22e édition des Instants Vidéo, festival transcontinental et itinérant d'art vidéo, est de passage à Marseille du 9 octobre au 19 décembre. Pour une programmation dans laquelle l'art vidéo croise la performance, la poésie ou la danse. Une programmation qui fait aussi place à de nombreuses rencontres entre le public, artistes, critiques ou chercheurs. Une programmation marseillaise déjà entamée en fait, avec une installation de Thierry Kunzel intitulée « La peau » visible à la compagnie depuis le début octobre. À la Friche, la Fosse, l'Histoire de l'œil, au FID, à l'Espace Culture, la Galerie Où et au Théâtre de la Cité, ce sont maintenant près d'une centaine de films à découvrir avec comme fil rouge de cette programmation une question. Avez-vous vu l'horizon récemment? J'ai failli dire avez-vous bu l'horizon? Non, on l'a vu peut-être. Un horizon en tout cas souvent bouché par un mur ou des murs, car un mur peut parfois en cacher d'autres. Ainsi, le tapage médiatique qui salue le 20e anniversaire de la chute du mur, comprenez le mur de Berlin, ne doit pas nous faire oublier que sur tous les continents, les bétonneurs de frontières sont plus que jamais à l'œuvre et que les murs se multiplient comme des petits parpaings. Mur d'image ou mirador, cri ou murmure, nous sommes au pied du mur pour cette émission spéciale sur les 3-8 autour des 22e instants vidéo. En direct du studio de Grenouille, je suis en compagnie de Marc Mercier, directeur des instants vidéo et qui est accompagné de Julien Blaine, Sylvie Marchand, qui représente le collectif Giga Circus, Natacha Muslera, qui est chanteuse et réalisatrice, et puis Khaled Jarrar, qui est photographe et performeur. Bienvenue à tous. On va peut-être commencer ce tour d'horizon avec Marc Mercier. Marc, bonjour.
Bonjour.
Avez-vous vu l'horizon récemment? Pourquoi ce questionnement sur l'horizon comme fil conducteur de ces instants vidéo?
D'abord, c'est une question en fait qui a été posée sur la grande période du mouvement Fluxus par Yoko Ono. Et on a eu envie de la réactualiser parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on entend autour de nous beaucoup de gens un petit peu désespérés, ne voyant plus comment transformer ce monde-ci dans lequel nous vivons et qui est quand même assez intolérable. Tu as quand même évoqué tous ces murs qui se multiplient et tous ces camps. Et nous, on avait envie donc d'interroger un petit peu le monde, interroger les artistes, interroger tous les gens qu'on pouvait rencontrer pour voir si, par hasard, ils n'auraient pas vu quelques failles dans les murs qui nous entourent. Et donc ça fait un an en fait qu'on se balade avec cette question. Et c'est assez intéressant parce que tout à l'heure tu as mis au pluriel mur, mais lorsque j'ai discuté avec des artistes vivant sur des îles, notamment l'île de la Réunion ou de la Guadeloupe, eux, mais sans le vouloir, dans la discussion comme ça, tout d'un coup, horizon est apparu au pluriel. Ils m'ont renvoyé la question en me disant « Ah oui, c'est bien cette question, avez-vous vu les horizons ?» aujourd'hui, parce qu'effectivement, quand tu es sur une île, tout d'un coup, il y a une multiplicité d'horizons. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une solution, parce qu'elle est piégée, cette question. Et ouvre l'horizon, ça voudrait dire qu'il n'y aurait qu'une solution, une seule faille à trouver. Je crois qu'il y en a une multitude à inventer. Donc ça, c'est intéressant. Puis effectivement, quand on va quand on va dans certains pays où il y a des murs concrets, physiques, comme la Palestine, mais aussi à Chypre ou au Mexique, on s'aperçoit que cette question a une résonance évidemment un peu différente, parce que là, l'empêchement de voir l'horizon est très concret. Et peut-être encore une petite chose, c'est que je crois que ce qui est important aussi de dire, c'est que ces fameuses brèches, cette possibilité d'inventer peut-être un autre monde que celui-ci, c'est pas une mise en lumière, parce que l'horizon, on pourrait penser que Oui, il va y avoir une solution qui est en face de nous, ça va être comme une espèce de lever de soleil. Bon.
Oui, c'est l'horizon céleste, hein, c'est
voilà,
ça.
Voilà, l'horizon céleste ou la grande lumière spectaculaire. Non, c'est pas ça, je crois. Je pense qu'il faut plutôt, si on veut se faire une image de ce que pourrait être cet horizon, il faut plutôt, je crois, imaginer des lucioles. Et là, je rends hommage à Georges Didier Huberman qui vient de faire un livre, justement, où il questionne les lucioles. Alors, ce qui est intéressant, les lucioles, c'est qu'il y en a plusieurs. Ça vole, c'est insaisissable, ça clignote, et puis c'est pas toujours facile à voir. Il faut un petit peu se frayer des chemins dans l'obscurité pour les rencontrer.
Mais les lucioles ne vivent qu'un instant, alors que les instants idéaux en sont à leur 22e édition. Une sacrée expérience quand même acquise par ce festival et une dimension internationale sur laquelle on va revenir. Dans un festival digne de ce nom, on ne se contente pas d'exposer les produits de la culture du moment, mais on sait aussi les confronter à la pensée et à la pensée critique. Ainsi, une exposition autour du philosophe Gilles Deleuze avec, entre autres, le film Facts of Life de Sylvia Maglioni et Graham Thompson, qu'on avait pu découvrir au FID l'an dernier, et puis des installations, notamment Through the Letterbox, et puis le cahier numérique, et puis des rencontres aussi. Alors, à propos de Deleuze, un jour peut-être le siècle sera deleuzien, disait Michel Foucault. Mmh. Ce siècle, c'était le siècle passé, ou bien Deleuze est-il toujours et plus que jamais d'actualité dans notre siècle présent ?
Je pense qu'il est de plus en plus d'actualité, ne serait-ce que par l'un des concepts qu'il a inventé et je pense le plus expérimenté, qui est le concept des lignes de fuite. Ligne de fuite, il ne faut pas prendre fuite dans le sens partir en courant comme des lâches, hein, mais c'est bien faire fuir tout ce qui est un petit peu trop clos, un petit peu trop organisé. Il faut créer des fuites, il faut faire des failles, il faut bousculer tout ce qui est un petit peu trop rigide, quoi. Et c'est en ça que Deleuze, je crois, est quelqu'un de formidable. Puis c'est quand même un de nos rares philosophes de dimension internationale qui a vraiment interrogé l'image et le cinéma. Ça, c'est quand même, j'allais dire un maître, peut-être qu'il ne faut pas dire ça, mais si, à condition qu'un maître, on le conçoit comme quelqu'un qu'il faut aussi trahir, mais merveilleusement bien, quoi. Et Graham et Thompson, effectivement, donc on fait ce film. C'est deux artistes que j'ai rencontrés l'an dernier, il y a pile un an. Donc ils étaient encore en train de travailler sur ce film, qui n'est pas un film sur Gilles Deleuze, mais qui est un film avec Gilles Deleuze et pour Gilles Deleuze.
On le voit pratiquant ses cours à la fac de Vincennes.
Oui, et puis ils ont... leur parti pris, c'était surtout de ne pas tomber dans la nostalgie. Parce qu'on peut très vite y arriver, hein. C'est normal quand on aime quelqu'un et qu'il a disparu, on peut avoir ce désir-là. Mais c'était plutôt le réactualiser et le rendre vivant. Et puis aussi, donc l'idée de l'explosition, donc c'est un jeu de mots avec explosion et exposition, c'était aussi l'idée que il y a des philosophes, et je pense que Deleuze en fait partie, qui ont réussi à dépasser, je dirais, le stade universitaire et purement théorique. C'est aussi de la poésie. Lorsqu'il parle de ligne de fuite, de ligne d'air, ça évoque des choses, même si on n'a jamais fait de philosophie. Et c'est aussi cette idée que c'est une philosophie qu'on peut aussi rencontrer, pas seulement avec le cerveau, mais physiquement, avec le corps. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette idée de faire des explosions où tout d'un coup le public va être immergé à l'intérieur d'une pensée poétique. Et ça nous intéressait beaucoup. Je voudrais juste rectifier quelque chose. Tout à l'heure, tu disais qu'à la compagnie, il y avait la peau. Alors effectivement, il y a eu la peau pendant un mois, mais c'est terminé depuis samedi. Et à partir de ce soir, il y aura l'une des expositions, l'inarchivée, de Graham et Sylvia, donc à la compagnie, avec une inauguration ce soir à 19h.
Ligne de fuite, on est bien dans cette poétique de l'horizon. Peut-être un rebond, Julien Blaine, sur cette actualité encore aujourd'hui de Gilles Deleuze. Qu'est-ce que tu en penses ?
Ah ben, pour moi, ça a été un des personnages les plus importants. Je suis simplement beaucoup plus pessimiste que Marc Mercier, parce que sans doute je suis beaucoup plus vieux, mais tu sais qu'on a fait pendant très longtemps l'autre journal avec Michel Butel, que c'était sous une inspiration de Gilles Deleuze.
Un des compagnons de Gilles Deleuze.
Voilà, avec Claire Partenay. Et moi, ça m'a toujours marqué. Il y a une phrase que je me souviens, dont je me rappelle régulièrement quand je suis vraiment un peu gay pour me rappeler la réalité des choses. Gilles Deleuze disait qu'on travaillait, nous par exemple, pour un peuple futur. Tu vois, travailler pour un peuple futur, d'un coup c'est très consolant, mais un peuple futur, ça n'existe peut-être pas. Et quand on fait les images qu'a fait tout à l'heure Marc...
Parce qu'on n'aura pas de futur ou parce qu'on n'aura pas de peuple?
Parce que je pense que ce qui se passe en ce moment avec l'arrivée au pouvoir de tous les monothéismes, il faut savoir que Poutine, la première chose qu'il a faite, c'est de se convertir à un monothéisme orthodoxe, que Bush, n'en parlons pas, que Obama, quoi qu'il en dise, fait que Guantanamo est toujours ouvert. J'en passe et des meilleurs en passant par tous les monothéismes qu'on connaît, par exemple que Harry Sharon est toujours branché. Voilà, donc tout ça, ça me met en phase par rapport à des termes très beaux de Marc. Donc, ce mur cassé, la lézarde. Hein, la lézarde, c'est formidable. La lézarde, c'est tellement fort dans nos mythologies, la force du lézard, qu'à La Réunion, on appelle l'endormi. Tu vois. Et donc, où je faisais ce parallèle entre la lézarde, qui est notre rêve sur les murs, et en même temps, le nom qu'on lui donne à La Réunion, c'est-à-dire l'endormi. Et j'étais vraiment très, très, très interrogé par cette métaphore de Marc. Comme les lucioles, on sait que les lucioles sont condamnées, elles vont disparaître. Il est clair que dans 10 ans maximum, il n'y aura plus aucune luciole. C'est la fin des lucioles. Donc voilà, cet horizon d'un coup, voilà, on est désespéré. Enfin, moi, je suis, si j'ai pas des amis comme nous rencontrons quand nous allons dans ces choses que qu'organise Marc ou d'autres amis à moi, je pense que je serai absolument désespéré. Et j'en profite pour rebondir sur ta question. Gilles Deleuze, il a changé d'étage. Il habitait, je sais pas quel étage. On va dire le 3e. Donc il a déménagé pour le même immeuble au 4e étage et là il s'est jeté par la fenêtre. Voilà, donc quand on voit ces gens qui nous ont aidés à penser, aidés à réfléchir et aidés à se battre, comme Gilles Deleuze, comme Guy Debord, qui ont tous fini flingués, on se dit il y a quand même un problème par rapport à ce qui se met en place, par rapport à ces pouvoirs hégémoniques et totalitaires. J'entendais hier sur France Culture ce type qui a fait ce merveilleux film Le Concert. Et donc le journaliste normal lui pose la question traditionnelle disant « Mais qu'est-ce que vous pensez de l'identité nationale ?» Lui, c'est un réfugié bulgare qui vient de prendre la nationalité française. Il dit « Quand on pose ce genre de questions, c'est le début du totalitarisme. »
Certainement, et on y est engagé. Revenons plutôt que sur une notion nationale, sur une dimension internationale. Ça nous rassurera peut-être un peu, ça, de nos interrogations par trop nationales ou nationalistes. Une dimension internationale du festival, affirmée, réaffirmée chaque année. Les films présentés pour cette 22e édition des Instants Vidéo proviennent de 42 pays différents, et puis des liens durables, je précise durables, sont établis avec des villes, contact du festival, Damas, Alexandrie, Ramallah, ou Katowice. Ainsi, depuis 2 ans, les Instants Vidéo développent un partenariat avec la fondation Katan à Ramallah. On aurait pu recevoir sur ce plateau Mahmoud Abouhachach, qui est le président de la fondation Katan, et il n'a malheureusement pas pu nous rejoindre, mais peut-être Marc, quelques mots sur les objectifs de cette fondation Katan.
Bon, Mahmoud ne nous a pas rejoint, mais il sera là le 11, il arrive le 11 novembre, hein. Il a juste eu un problème par rapport à son visa, mais il va nous rejoindre. La Katan Foundation, donc, qui est basée à Ramallah, a pour objectif de soutenir la création contemporaine en Palestine, non seulement sur Ramallah, mais sur l'ensemble de la Cisjordanie et aussi à Gaza. Et d'ailleurs, à Gaza, ils font aussi un énorme travail de formation auprès de la jeunesse. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que pour nous, ça a été... Donc en fait, ça fait 3 ans qu'on va régulièrement là-bas. Au début, juste uniquement pour faire des workshops, des programmations vidéo. Et puis avec Mahmoud, tout d'un coup, on s'est dit que ça serait peut-être bien et urgent de créer un festival d'art vidéo et de performance à Ramallah, Gaza et Jérusalem Est. Et c'était à la fois parce qu'il y a une demande sur place, il y a des artistes sur place, et c'était aussi cette idée de crier à la face du monde que la Palestine, contrairement à ce que les médias ont un petit peu tendance à vouloir faire croire, c'est une nation qui est tournée vers le futur, qui est tout à fait en phase avec les débats qui peuvent avoir lieu dans tous les autres continents, et qu'il y a un véritable désir d'échange, un véritable désir de confrontation d'idées. Et donc nous, évidemment, quand on face à une telle proposition, on s'est retrouvé tout à fait emporté, enthousiasmé pour mener à bien ce projet. Bon, ça fait partie de ce qu'on peut appeler une utopie, parce que je crois que la dernière minute, on n'a pas cru que ça pourrait se faire, et puis effectivement, au mois de mai, On a donc pu créer le premier festival d'art
vidéo. Une utopie qui se réalise, voilà, avec un festival qui s'appelle SIN, c'est ça? Je ne sais pas si ça se prononce comme ça.
Oui, tu peux le prononcer comme ça.
Peut-être deux mots sur la programmation de ce festival. Tu y as assisté. Comment est-ce que les choses se sont déroulées?
Très bien. Il y avait d'une part donc une présence de la création palestinienne, donc à la fois sous forme d'installation vidéo, de projection et de performance. Et puis toute une série de programmations que j'ai amenées, internationales, avec un accent un petit peu fort, parce que c'était aussi une demande des Palestiniens, de présenter des œuvres d'artistes qui vivent des situations similaires, justement pour voir comment les poètes électroniques arrivent au cœur du désastre, malgré tout, peut-être par un optimisme pathologique, j'ai envie de dire, à créer de la splendeur.
Ou peut-être parce que c'est d'autant plus nécessaire dans cette situation de désastre.
Ah oui, c'est d'autant plus nécessaire. Et puis, de toute façon, c'est toujours... L'autre fois, dans une discussion, je disais à quelqu'un qui me parlait de Gaza, mais qui n'était jamais allé, par exemple, toi, et qui me parlait que des ruines. Ah, ça doit être terrible. Bon, je leur ai dit, mais tu sais qu'à Gaza, il y a un zoo. Et il y a des gens qui, le samedi, par exemple, vont visiter un zoo. C'est-à-dire que c'est aussi des gens qui vivent, qui sont à la recherche d'une vie normale, entre guillemets, mais pas celle qui est normalisée, mais un quotidien, quoi.
Ce sont des gens normaux, hein, c'est la guerre qui n'est pas normale.
Et bien sûr, c'est la guerre qui est absolument pas normale. Et c'est dans le dernier, comment il s'appelle, Le Temps qui reste, j'ai un trou de mémoire, le réalisateur palestinien.
J'aimerais t'aider, mais ça ne me vient pas.
Il y a une séquence absolument extraordinaire à la fin du film qui a été présentée au Festival de Cannes. Là, c'est terrible de ne pas se rappeler son nom. Il y a un char israélien, on est à Ramallah, il y a à la sortie d'une boîte de nuit. Et devant le char, il y a un homme avec un téléphone portable qui téléphone et qui fait les 100 pas, comme si le char n'existait pas, comme s'il n'était pas là. Et ça, c'est vraiment une force extraordinaire de tout un coup de mettre à distance l'oppresseur, mettre à distance le pouvoir et affirmer son existence et sa vie. Et moi, je trouve que c'est... Pour moi, ça a été une des grandes leçons de la Palestine et qu'on a envie de transmettre, quoi.
Peut-être on va écouter quelques mots de la part de Julien Blaine qui a accompagné un ensemble d'artistes marseillais, français, en Palestine il y a quelques mois de mai. Alors peut-être Julien, au pied du mur, face à cette frontière, qu'as-tu à déclarer un cri, un murmure?
Non, mais d'abord, ce que dit Marc est vrai, c'est que la vie surpasse tout et le désir de vivre surpasse tout, mais que néanmoins, quand on voit les choses telles qu'elles sont, c'est très différent. Je veux dire, entendre parler de la répression, des contrôles, c'est une chose. En train de parler de la barbarie, de ce qui se passe, c'est une chose. La vivre comme ça. Et alors, ce que dit Marc est formidable parce que c'est à la fois une chose qui est merveilleuse parce que la vie est plus forte. Mais en même temps, ça veut dire que bon, on passe au-delà de ça. Mais en même temps, tu peux faire le parallèle entre ce type qui téléphone devant un char et Rachel, petite juive américaine qui vient essayer de lutter contre ces chars-là pour pas qu'ils écrasent les maisons palestiniennes et qui se fait écraser elle-même. Donc c'est toujours, tu vois, c'est ça qui est formidable dans ces choses-là et qui est terrible à la fois, c'est que tu es toujours entre les deux. Alors Ramallah, et puis tu pars de Ramallah, tu vas à Jéricho, enfin c'est des paysages que tu ne peux pas imaginer, la beauté de ces paysages, la force de ce peuple, la résistance, la gentillesse, le bonheur dans le malheur de ce peuple, c'est quelque chose d'absolument hallucinant. On est bouleversé tout le temps. Il n'y a pas un moment où tu es intact comme tu pourrais être en Europe malgré les uns et les autres dont on parlait tout à l'heure. Tu es toujours atteint, vraiment atteint physiquement, atteint corporellement. Alors tu vas voir le mausolée d'Arafat, puis après tu te retrouves dans cette fondation où tu sais que c'est là que Mahmoud Darwish a écrit ses derniers poèmes parce qu'il était reçu dans cette maison-là, donc tu lis dans cet espace-là. Tu es sans arrêt amoché au sens propre du terme, tu vois, pris dans ta chair et dans ta pensée. Donc pour moi ça a été vraiment très 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 fort, c'est vraiment sans doute une des choses les plus importantes que j'ai croisé. En plus, les gens avec qui nous étions là, c'est des gens que je connaissais pas. Donc pour moi, c'était une double connaissance, hein, de rencontrer les autres, hein, qui sont des gens qui sont autour de cette table pour la plupart, et en même temps rencontrer ce peuple-là, où là, je connaissais beaucoup par Oui Dire, par les films de Simone, par Catherine qui en a monté, etc. Puis d'un coup, je suis confronté à la réalité de ça, et à des performances comme celle dont on va te parler, Raled, qui sont des choses extraordinaires, vraiment.
Alors, puisque cette journée est placée sous le signe du mur, j'imagine que tu n'as pas manqué d'aller te balader au pied de ce mur qui sépare la ville de Jérusalem en deux, qui censément protège les uns et en fait les enferme, bien sûr. Quel sentiment tu as éprouvé au pied de ce mur ?
La rage, je veux dire, c'est la seule chose qui te gouverne, c'est la rage. Tu n'arrives pas à comprendre. Et puis en même temps, tu t'aperçois bien que c'est pas le seul. Tu vois, j'ai pensé à ça tout le temps, puisque maintenant, depuis ce matin, on nous rabat les oreilles sur toutes les télés, toutes les radios avec le mur de Berlin. Et je pensais que peut-être, nous, on allait fêter en 2029 la grande crise capitaliste, hein, qui sera notre fête à nous, tu vois, je veux dire. Alors, on va faire une grande fête avec Marc, on sera toujours vivant, hein, Marc. On sera en pleine forme et on va faire une grande célébration et toutes les radios, toutes les télés pour nous qui vont parler de cette grande crise où vraiment on a cru qu'ils allaient s'ébattre. Mais eux, ils se restaurent, c'est comme les murs, je veux dire. Au moment où tu crois toujours que tu as gagné, au moment où tu crois qu'il s'est passé quelque chose qui fait que tu as vaincu, hop, ça se restaure. Je vais pas reparler de 68 parce que ça va vraiment vieux combattants, mais ils récupèrent tout. Alors voilà, en même temps que le mur de Berlin tombe, il y a 3 ou 4 murs qui se créent, qui créent des frontières absolument irrémédiables, où en effet, la résistance s'exerce, la force s'exerce, mais le mur est là.
Le mur est là, effectivement. Peut-être on peut poser la question à Khaled Jarrah. Aujourd'hui, dans tous les médias français et européens, on parle du mur de Berlin, de l'anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et pourtant, à Al-Quds, ta ville, dans ton pays, il y a un mur. Et comment est-ce que tu perçois, toi, le fait que l'actualité ne parle que du mur de Berlin, comme si c'était le seul mur, et ne parle jamais ou très peu de ce mur qui sépare ta ville en deux ? Khaled Jarrah.
Actually, I was in Berlin and I saw the wall there.
En fait, j'étais à Berlin et puis j'ai vu ce mur.
I found that it's nearly the same. We have same issues about this wall, but I feel more aggressive about the Israeli wall, because this wall is even more politic one, and it's more controlled.
Et puis donc j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de points de similitude entre ce mur de Berlin et puis le mur qui existe entre que l'État d'Israël a édifié. Et c'est vrai que je suis beaucoup plus agacé devant le mur israélien, parce qu'il est beaucoup plus, à mon sens, chargé politiquement.
And Berlin Wall is like 3 meters high. This wall is 9 meters high. There is some kind of it's more grow up, maybe it's trying to assimilate the Berlin Wall. But here we will talk that this wall is not coming at the borders, according to the United Nations. This wall is coming to steal the water from Palestinians. You need to look to the geographic map for the West Bank, and you will see that this wall is going inside the West Bank to steal the sources of the water from under the ground.
Alors effectivement, la différence principale, c'est qu'il y en a un, celui, le mur israélien, qui fait 3 fois la hauteur de celui de Berlin. Mais en plus, celui édifié par l'État d'Israël ne repose pas sur des lignes de frontières définies telles qu'elles sont définies par les Nations Unies. Mais en jetant un coup d'œil sur une carte géopolitique, on s'aperçoit que ce mur a été édifié pour détourner l'eau qui gît en grande partie sur le sol palestinien.
So if you are in the front of this wall, you will not see the sky. And this is what the Israeli army or Israeli government, they want us. They want us to feel hopeless. They want us to be under control from their wall. But I want to say that this is will not control us, because we have our life, we have our art, our music. So this is the way that we fight the war now. This is the way that we fight the occupation. It's more about, some people, they said it's like culture intifada, and I say it's like our daily life. So that this is how we live.
Alors effectivement, au pied du mur, on ne voit pas du tout le ciel, ni l'horizon. Mais effectivement, on se rend compte que l'État d'Israël, le gouvernement israélien, son but est de nous miner le moral, de faire jaillir le désespoir parmi nous. Ils n'y parviennent pas parce qu'il y a encore des ressources dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre.
Souhaitons en tout cas que ce mur disparaisse. Avant 30 ans, le mur de Berlin avait sévi et coupé Berlin en deux. Pendant près d'une trentaine d'années, souhaitons que celui qui coupe Jérusalem en deux ne dure pas une trentaine d'années lui aussi, Julien.
Oui, une autre différence essentielle, c'est que le mur de Berlin respectait la frontière de Berlin-Est et de Berlin-Ouest. Le mur israélien ne respecte pas la frontière entre la Palestine et Israël.
Ben, il ne respecte rien, j'ai l'impression.
Oui, mais là on parle de mur.
Rendez-vous en tout cas le 13 novembre à 17h à la Cartonnerie pour une rencontre avec l'ensemble des artistes qui ont fait partie de ce voyage en Palestine, une rencontre avec le public. Et puis rendez-vous le 14 novembre à 22h à la Cartonnerie, donc toujours pour une performance, un cri, une déclaration de Julien Blaine. Si à Berlin le mur est mort, ailleurs au moins deux murs demeurent. En Palestine, on vient d'en parler, un nouveau mur de la honte autour de Jérusalem et puis entre les États-Unis et le Mexique, un mur anti-immigration, lui aussi terriblement meurtrier. On écoute deux minutes de son issu de A Mexica Skin du collectif Giga Circus. On en parle juste après.
Y pues nosotros en mi estado al menos todo el mundo conocemos mi hermano Jorge Charleston, mi tío Pedro Sánchez, mis primos están en Texas y mi hermano pasó el desierto, mi único hermano pasó el flujo de Buyer, de mojado, pasó él.
Aquí trabajamos 8 horas para un salario mínimo.
Se aprovechan de
la necesidad.
Que aquí en este pueblo, alrededor han muerto mucha gente pasando por los desiertos a Estados Unidos, los han traído muertos aquí, muchos. De aquí en la región hay muchos coyotes que los llevan, pero la gente tiene miedo de denunciarlos, toda la gente tiene miedo.
I've yet to meet a single migrant who wanted to be here, who came here because they wanted the American way of life. Not at all. They want to be at home. They come here out of necessity. They're not pulled here. They're pushed here by the realities in Chiapas and Veracruz.
Au pied du mur, une émission spéciale en direct autour des 22e instants vidéo. On vient d'écouter un extrait d'A Mexica Skin ou America Skin, un projet du collectif Giga Circus, un collectif animé par Sylvie Marchand, réalisatrice, et Lionel Camburet, plasticien et poète. Collectif d'artistes polyvalents. America Skin, un mur d'images et de sons qui fait écho à un autre mur, celui qui borde la frontière américano-mexicaine, un mur qui tue chaque année de nombreux migrants qui s'efforcent de pénétrer aux USA. Sylvie, d'où est venue l'idée de travailler sur cette idée de la frontière et particulièrement cette frontière-là?
À vrai dire, c'est une invitation
Parle bien dans le micro.
C'est à l'invitation de Alban Corbier-Labasse qui a inventé, monté un festival d'art numérique qui s'appelle Mediarte, qui m'a invité en 2006 pour que à appliquer ma vision à cette réalité-là, puisque avant je travaille enfin depuis de nombreuses années sur la planète, on dira enfin la nôtre, en marche, en déplacement, sur les cultures de la mobilité, ce qui m'a amené, ma première pratique d'ailleurs artistique était le cirque, donc dans lequel j'ai travaillé pendant 8 ans, et ensuite en tant que réalisatrice j'ai continué à pratiquer, je suis devenue ethnologue d'ailleurs parallèlement à mes activités de circassienne, et donc c'est cette mobilité et cette quête hein, sur le terrain même des nomades, autant en Mongolie, en Asie, en Afrique, en Europe centrale, qui m'a amenée finalement, en toute logique, je pense que c'est plutôt ma démarche artistique qui m'a amenée là-bas. Et donc, je reprends simplement ce que tu disais tout à l'heure au sujet de l'installation au mur d'image. Non, justement, mon désir était de ne pas reproduire un mur, justement pour parler du mur, mais de traiter de cette frontière en évitant au maximum, en s'interdisant complètement de traiter la chose comme un mur qui séparerait deux mondes, et de reprendre le schéma binaire à la bouche et qui sépare et qui est générateur de violence. Donc l'idée était dans
la conception. Parle-nous du dispositif concrètement mis en œuvre dans cette installation.
Donc l'idée est de développer plutôt une peau d'écran, en tout cas une forme, une ligne, parce qu'on l'appelle aussi au Mexique la linea, en effet qui nous conduit de l'autre côté, mais sans jamais traverser. On a une expérience
courbe,
à un moment
en l'occurrence,
donné. Alors c'est ça, c'est une sorte d'anneau de Möbius. Donc l'anneau de Möbius est un cercle dont les deux côtés opposés se rejoignent. Et l'idée, c'était de construire pour le spectateur un espace de sens, un espace sensoriel, une expérience vraiment sensorielle qui lui permettrait de comprendre depuis le point de vue du migrant. Donc j'adopte le point de vue du migrant. J'ai travaillé donc au Mexique, depuis le cœur du Mexique jusqu'au nord des États-Unis avec des migrants en marche, hein, à travers des déserts. Pendant 6 mois, et je me suis vraiment appropriée. Il faut dire que je vis aux États-Unis régulièrement depuis l'âge de 16 ans, donc c'est un second pays pour moi, qui m'est très cher à cause de la richesse interethnique de ce pays, justement, Nation of Immigrants. Et on a du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui ces migrants qui furent des migrants sur Ellis Island, d'ailleurs vous en verrez des images d'Ellis Island d'aujourd'hui dans le dispositif. Donc pourquoi est-ce que tout d'un coup on a besoin de faire une sélection donc de chair à travail? Et donc le dispositif en ligne, en anneau de Möbius, donc nous permet de du point de vue du migrant que j'ai choisi, nous permet de passer de l'autre côté tout en construisant un sens. Il me semble important de dénoncer la violence, de dénoncer le sort qui est fait aux migrants, mais en même temps il est important de construire du sens et de construire justement des brèches. Et ce sont les artistes que j'ai rencontrés sur la frontière, à la fois des Anglo et des Mexicains ou des Latino-Américains de tous les pays, qui ensemble construisent autre chose.
Ça n'est pas un mur, mais c'est une peau, ça tu viens de nous l'expliquer. La peau de l'Amérique, c'est une idée que tu avais déjà abordée dans une précédente installation, plutôt photographique celle-là, elle s'appelait Somewhere Else, et c'était, je crois, pas tellement avec des migrants, mais plutôt avec des Native Americans.
Oui, en effet, mon ami Lionel a vécu pendant 4 ans, lui, dans une collectivité d'Amérindiens Cri, donc dans laquelle il m'a emmené. J'ai retrouvé un album. C'est rigolo que tu sois tombé sur que tu aies sélectionné ce travail, mais c'est vrai que c'est un très très beau travail. Donc un album photo abandonné par un blanc qui a été élevé par cette tribu, un blanc anglo, élevé par une famille d'Indiens Cri. Et donc j'ai aimé cette femme façon d'abandonner sa mémoire aux intempéries. Donc il a laissé toute son histoire, tout son album photo familial qui a été retravaillé ensuite par la nature, la pluie, la neige. J'ai retrouvé cet album 2 ans après et j'en ai en effet retraduit un déplacement. Et ce que je trouvais, c'est que c'était bon, ce jeune homme qui a été élevé par des cris, a fait des photographies ensuite retravaillées par la nature, on pourrait dire en collaboration avec la nature, mais qui était pour moi une trace de la blessure qui avait été faite aux Amérindiens sur leur terrain même. Et on trouve dans la photo...
Où est-ce qui t'intéresse finalement dans la peau? C'est pas tellement cette barrière entre l'extérieur et l'intérieur, c'est plutôt que c'est quelque chose qui porte des cicatrices et dans ces cicatrices une mémoire.
Une mémoire, et en même temps, c'est le sens commun aux autres sens. Nous, occidentaux, on a l'habitude de comptabiliser, compter 5 sens. Et la peau, c'est ce qui entretisse le tout. C'est ce qui fait corps. Et ce qui m'intéresse dans l'Amérique, ça s'appelle Amexicaskin. Amexicaskin, c'est un jeu de mots entre Amérique et Mexique. On dit les Américains, ils s'approprient le continent entier. Pour moi, ce qui compte, c'est la peau du continent et même la peau du monde. J'ai introduit rapidement mon travail. Ce qui m'intéresse, c'est l'humanité, c'est les gens, c'est le corps humain. Voilà.
Alors, on disait tout à l'heure que ce mur qui sépare l'Arizona du Mexique est un mur particulièrement meurtrier. De très nombreux migrants qui s'efforcent de rentrer aux États-Unis se retrouvent face à ce mur et perdent la vie concrètement à essayer de la gagner, de traverser pour sauver leur peau et pour gagner leur croûte, hein, tout simplement. Est-ce que tu as une idée du nombre de décès qui sont causés par ce mur?
On comptabilise en un peu moins cette année de 300 en Arizona, corps retrouvés en Arizona, mais sur toute la longueur du mur, environ 500 morts par an, qui est un chiffre qui augmente. Mais ça, ce sont les corps
ils sont
retrouvés.
Abattus par la police ou
Non, ils sont ils se perdent. Ça, ce sont les gens qu'on retrouve, malheureusement, les corps que l'on retrouve morts de déshydratation ou de faim, etc., de fatigue. Mais bien plus nombreux, et combien sont-ils, ceux qu'on n'en trouvera jamais. Ça, c'est, il faut le dire.
Alors, il ne s'agit pas de faire une arithmétique de la mort ou des murs, hein, bien sûr, mais enfin, on se rend compte quand même que ce chiffre que tu évoques, il est infiniment supérieur à tous ceux qui, au cours des 30 ans ou un peu moins d'existence du mur de Berlin, ont été victimes des Vaupeaux à cette occasion. C'est vraiment le mur le plus meurtrier en ce moment dans le monde.
C'est le mur le plus meurtrier, et on s'aperçoit que cette idée de frontière aux États-Unis est là pour faire une sélection entre les êtres humains qui peuvent, eux, passer. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui peuvent obtenir un passeport et un visa aux États-Unis si on est salarié et mexicain, hein, ou venant d'une autre région du monde, et qu'on peut prouver qu'on est propriétaire d'une maison, on peut obtenir un visa. Donc autrement dit, si on est pauvre et non propriétaire, combien d'entre nous, même ici, auraient un passeport et un visa pour aller travailler? Justement, si on va travailler, c'est qu'on a besoin.
C'est qu'on a besoin d'un travail.
Mais par contre, ce qui est pratique, c'est que grâce à ce papier, et ça c'est quelque chose de vieux comme le monde, malheureusement ça remonte au XIIIe siècle en France, hein, l'invention du papier et du passage de la frontière permet de sélectionner les êtres vivants entre ceux qu'on va retenir, qui pourront profiter des autres, et ceux qui vont servir de chair à travail. En fait, c'est un système d'esclavage contemporain, et cette frontière mexicaine est une sorte de laboratoire, puisque de laboratoire de l'esclavage contemporain, puisque aujourd'hui la frontière n'est pas réduite à des portions de murs qui, elles, en fait sont quasiment invisibles, hein, par endroits. On ne la voit pas, la frontière, dans le désert. Par moments, ce sont des piliers au travers desquels, si on est vraiment très mince, on peut passer. On peut toujours passer par-dessus un mur. On passera toujours par-dessus les murs. Mais elle s'étend surtout sur des kilomètres grâce aux tours virtuelles, qui d'ailleurs ne marchent pas, mais qui font quand même peur. Et donc, ça n'est pas sur une portion de mur, mais sur des kilomètres carrés. Donc 3 000 de large sur à peu près 300 3000 de long sur 300 de large. Ça, c'est un espace absolument immense. Et en même temps, puisque tu parlais du désert d'Arizona, un des plus beaux endroits du monde. Comment, dans une telle beauté, peut-on... l'être humain peut-il créer autant de violence? Mais bon, voilà, c'est ça. C'est vraiment la mise en œuvre d'un système d'exploitation de l'homme par homme qu'il faut décrier. Et il faut dire, pour reconstruire à côté de ça, que c'est dans la lutte, la résistance culturelle, artistique. J'ai rencontré des artistes mexicains et anglo, hein. Encore une fois, on entend autant d'anglais américains que de mexicains. Dans l'installation, je voulais absolument pas dire d'un côté les bons, de l'autre les méchants. Il y a vraiment beaucoup d'Américains qui sont extrêmement meurtris par cette situation, et en particulier des artistes qui, aux côtés des Mexicains, font des performances sous les tunnels, sur les murs, envoient des cerfs-volants, font des poésies et résistent.
Évidemment, on finira toujours par passer au-delà des murs et par traverser les frontières. America Skin, c'est un dispositif multimédia qui est visible à la friche La Belle de Mai du 10 au 15 novembre. C'est au studio et le vernissage, c'est le 10, demain à 17h.
Et une conférence avec le public.
Et une conférence
samedi à 13h30, voilà, à la cartonnerie.
On donnera tout à l'heure, de toute façon, l'adresse du site internet des instants vidéo, de manière à ce qu'on puisse retrouver l'intégralité des rendez-vous de cette 22e édition foisonnante. On va peut-être revenir sur, peut-être pas forcément sur le mur, mais en tout cas sur le travail de Khaled Jarrar, au travers de la performance qu'il propose à la cartonnerie le 13 novembre, ce sera à 22h, une performance qui est intitulée The Soldier. Alors peut-être, Khaled, tu nous dis quelques mots sur cette performance. Khaled Jarrar.
The Soldier, it's more personal experience. I'm trying to show by stand as a sculpture, not moving, that inside me, while I have an order maybe, or an order to transform as to soldier, inside me I still have my emotions, my feeling, my way of thinking, but it's somehow that I have this border that I can't express what's inside me. So I need to just to perform as a soldier, because this is like the it's more about the orders issue, about going from individual identity to that you can't be act as individual while you are in the army.
The Soldier, c'est une expérience, c'est du vécu, c'est une performance qui se fonde sur mon vécu personnel, et je tente, en présentant une sculpture qui est figée, je tente de matérialiser les deux statues qui m'ont caractérisé ces dernières années, à savoir un statut de soldat et un second statut d'artiste. Avec cette figure figée, j'ai pour intention de mettre en lumière ce qui est à l'intérieur de moi, parce que passer d'un statut à l'autre représente, il y a une frontière qui paraît infranchissable, et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que entre les deux statues, j'ai toujours les mêmes sentiments, la même façon de penser, etc. Je veux montrer que cette frontière entre ces deux statues est peut-être pas si infranchissable que ça.
Khaled, tu es photographe. Est-ce que c'est la première fois que tu abordes cette nouvelle forme de travail?
I'm always trying to work with human issues, and it's more about the internal feeling for the human and what human suffered from maybe the incubation or the conflict or the capitalism or social life or economical problems. So I'm trying to always research for what it interests me when I touch something. So I'm do more research about it to find the suitable way to show it as an artwork, even if it was a performance or video or photography. And this is the media that I always like to work with.
Moi, j'ai toujours travaillé sur des questions touchant à l'être humain et aux sentiments de l'être humain. J'ai toujours été préoccupé par les sentiments intérieurs, les souffrances, qu'elles soient sociales, sociologiques, économiques. Et le support peut varier, ça peut être de la photographie, ça peut être de la performance ou de la vidéo, mais il ne modifie en rien mes questionnements principaux.
Ton travail s'inscrit dans cette 22e édition des Instants Vidéo, un festival de poésie électronique, un festival plutôt autour d'une poésie de l'image. Est-ce que tu as le sentiment que l'image photographique, l'image animée, est parfois plus à même de pouvoir conduire l'indicible, de pouvoir dire ce que les mots ont du mal à dire?
For me, I found that it's even for me as a as a personal point of view, I found that it's more easy to say so many things and to express so many things which is inside you about the conflict even inside you by the image. Words, it's helping the image and not the image that helped the words. So image, it's say much. It's even touching people because it's more visual communications. It's more visual contact to the audience.
Mon opinion personnelle, c'est que, mais là, c'est juste une opinion personnelle, c'est que c'est l'image en mouvement me permet de manière, enfin, plus facilement d'aborder plusieurs choses, plusieurs sujets, et notamment mes conflits intérieurs, mes contradictions, et dans cette optique, à mon sens, le verbe, le mot vient en soutien à l'image plutôt que l'inverse. Et c'est comme ça que j'envisage l'image en mouvement.
Tout à l'heure, on a évoqué avec Marc et Julien le fait qu'en Palestine, et malgré la situation difficile, malgré le conflit qui est présent et qui évidemment marque tout le monde, il y avait une formidable énergie de vie et une formidable énergie de création. Est-ce que tu partages toi aussi ce sentiment?
As Marc said before, we still have this conflict, and I believe that this conflict it will stay for a long, long time, and I'm not sure for how long. But instead of sitting hopeless, doing nothing, and have this feeling that we are useless, I prefer to do something, even if we. So we are. Being able to do an artwork, we are being able to live, even without, we don't have enough water for drinking, even we have the occupation, we have the wall, we have all these checkpoints around and all this controlled mobility. Our movement is very difficult, it's very hard to move from a city to the village, but We still have the mobility to move inside our feelings. So we are the one who controlled our internal feelings. So that's why that's how we live. We live to do something. We live to be to be helpful for the others. We live to show that we can fight the occupation with our culture work.
Oui, comme le disait Marc tout à l'heure, je partage ce sentiment, évidemment, et ce conflit, à mon sens, eh bien, il va durer longtemps, et je ne sais pas combien de temps exactement, mais mon sentiment, c'est que plutôt que de rester dans le désespoir le plus complet, je préfère faire des choses. Et vous disiez précédemment que nous étions toujours en capacité de vivre, de mener nos vies, eh bien, c'est ce à quoi j'aspire, vivre, et puis vers l'art également. Même si nous n'avons pas d'eau, même si certains secteurs souffrent de la famine, même si nous avons tant de checkpoints, donc nous avons tant de points de passage qui restreignent nos mouvements, et il est effectivement très très difficile de passer d'un point à l'autre, nous sommes ceux qui contrôlons nos sentiments intérieurs. Et ça, il me semble que c'est très important.
Peut-être en deux mots, parce que le temps tourne et qu'il nous reste encore à aborder dans ce tour d'horizon le travail de Natacha Muslera, mais peut-être pour terminer avec Khaled Jarrar, une question sur la politique, justement, puisque c'est un festival popopo politique aussi. Le président Mahmoud Abbas vient de surprendre tout le monde récemment en décidant de ne pas se représenter aux prochaines élections de janvier. Est-ce que ça ne risque pas de compliquer le processus de paix?
I think what Mahmoud Abbas did is it's really a good move, and I think he need to go further than this, and he need to announce that there is no Palestinian Authority anymore, because he is trying for the last 5 years to negotiate with the Israeli, and they don't stop the settlements inside the West Bank, which is announced as an occupation area according to the United Nations. So what Abbas did is like a small step. It's not risk at all, because our life is risk. So I think he need to announce a more strong to announce something more strong about, like, just to propose that he will stop working in the whole Palestinian Authority, and he will stop all the Palestinian police and army, and announce that we are just living under occupation.
Oui, j'approuve totalement le geste de Mahmoud Abbas. Je pense que c'est une bonne chose. Il devrait même aller plus loin en déclarant officiellement qu'il n'y a plus d'autorité palestinienne. Qu'il n'y en a plus, puisque en tant que responsable de l'autorité palestinienne, il a passé son temps à négocier ces 5 dernières années. Et puis les colonies ne cessent de s'étendre. Et puis il n'y a absolument aucun progrès sur ces 5 dernières années. Donc je pense que un geste encore plus fort serait de démanteler toute l'autorité palestinienne, la police, l'administration, et de déclarer qu'il n'y a plus d'autorité palestinienne, mais une situation d'occupation, de facto.
Ce qui est effectivement plus ou moins le cas. Merci beaucoup à Khaled Jarrar, et merci aussi beaucoup à Mathieu qui a assuré la traduction de cet entretien. On va poursuivre ce tour d'horizon avec Ramallah Mon Amour, une proposition de Natacha Muslera. On écoute peut-être d'abord quelques secondes de son que Natacha nous a apporté. On se retrouve juste après.
Ma grand-mère a passé son lune de noces à Ramallah. À l'époque, c'était une petite forêt avec quelques sources d'eau, avec quelques petits villas de vacances. Les gens allaient l'été à Ramallah. Aujourd'hui, l'été est insupportable à Ramallah. C'est étouffé, il n'y a pas un petit vent qui passe.
Ah bon ?
Ouais, à travers ce béton. C'est les Anglais, finalement, qui ont concrétisé le Ramallah.
C'est une position palestinienne, hein. C'est pas la position des centres culturels ou de... Mais c'est pour vous expliquer, parce que c'est vraiment important. Pendant très 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 longtemps, les Palestiniens ont demandé à travailler avec les Israéliens, dans des mouvements pour la paix, etc. Et ça a marché plus ou moins bien, on va dire plus ou moins. Mais depuis quelques années, les Palestiniens se sont rendus compte que tout ce qui était mouvement pour la paix était instrumentalisé par le pouvoir israélien pour justifier une démarche pacifique, une démarche humaine avec ces horribles terroristes palestiniens et que pendant ce temps, il y avait des colonies qui grandissaient avec 200-300 logements votés tous les mois. Il y a des checkpoints, il y en a 600 et quelques dans toute la Cisjordanie. Il y a des incursions toutes les nuits avec des gens qui sont arrêtés d'une façon totalement arbitraire et des gens qui sont assassinés parfois, tués.
Parce que quand on est de Jérusalem, on n'a aucune nationalité. On a juste une résidence. C'est-à-dire on porte d'identité de résidence. On est résident en Israël, c'est comme la carte de séjour en France.
On écoutait un petit extrait de son apporté par Natacha Muslera. Il nous reste très peu de temps, mais quand même pour échanger quelques mots avec toi, Natacha, sur cette proposition. Ramallah, mon amour, c'est le fruit d'une résidence en Palestine. Tu as accompagné d'autres artistes. Un texte passé par la voix pour être écrit, ça c'est ton processus habituel d'écriture. Quelque chose qui est fait pour la voix, par la voix.
Je ne sais. Enfin, là, c'est simplement que j'ai enregistré 6 heures de son. Et fait 4 images, 4 portraits d'étudiants de l'université de Beer Sheva. Et je suis partie de ça pour faire ce film. Donc c'est ça. Et après, j'ai eu une rencontre, une coïncidence extraordinaire, c'est que je voulais appeler le film Ramallah, mon amour, pour plein d'autres coïncidences, et plus ou moins secrètes. Et Marc m'a dit que Mahmoud Abou Achash avait écrit un livre qui s'appelait Ramallah, mon amour, et je ne le savais pas.
Quelque chose à voir avec Hiroshima, mon amour, ou pas du tout?
Non, mais j'aimerais parler d'autre chose.
D'accord, voilà. Vas-y, je t'en prie.
Et donc, il a écrit ce livre en 2002-2003. Donc, pour moi, c'était tout d'un coup, c'est devenu nécessaire qu'il y ait sa voix, la voix du poète. Puisque dans ce film de 40 minutes, donc c'est un film où il y a plein de voix, plein de sons, plein de bruits. Parce que ça a été, moi, ma traversée pendant 8 jours, qui était très courte à Ramallah et aussi à Jérusalem. Et donc, c'était qu'il y ait la voix du poète Mahmoud et la voix de Kaïs Bakri qui était notre guide touristique.
Ouais. Rendez-vous le 13 à 20h30 à la cartonnerie. Pardon d'écourter ce dernier moment. Hélas, les informations de RFI vont nous couper dans quelques instants. Vous pourrez en tout cas retrouver tout le détail de la programmation des instants vidéo sur le site www.instantsvideo.com. Et on n'a notamment pas parlé de l'Orestie africaine le 10 novembre à 19h, mais je vous la recommande. Les instants vidéo continuent à Martigues du 24 au 28 novembre, à Port-de-Bouc les 18 et 27 novembre, et si le cœur vous en dit, à Damas le 17 et Alexandrie du 6 au 18 décembre. À la technique, c'était Djilali. Mathieu nous traduisait tout à l'heure les propos de Khaled. Dans quelques minutes, après les infos, le 5 à 7, dans lequel Johanna vous reparlera sans doute du mur avec un reportage et un direct. Restez à l'écoute de La Grenouille, la radio qui prouve qu'il n'y a pas que les murs qui ont des oreilles.
Il faut s'y faire ! Il faut s'y faire !
Merci d'écouter RFI, 16h en temps universel, 17h à Paris et à Berlin.